Et à tous. Il paraît que les cigognes sont reparties ainsi que les hirondelles. C'est pour cela que nous revenons. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Voilà, nous revenons donc à notre émission, au rendez-vous du jeudi, pour redémarrer avec vous. Donc, après les plages de l'été, nous invitons à des escapades buissonnières, puisque notre parcours sur théologie buissonnière nous permet, pour notre émission des mots pour le dire, de gambader, ma foi, de mot en mot, à travers la Bible, à travers la théologie, à travers ce que tout un chacun devrait essayer d'approfondir. Théologie en buissonnière, qui est un livre écrit par Michel Théron, un esprit libre qui ne se revendique d'aucune imprimature et qui nous permet, grâce à sa manière de creuser les sillons bibliques, de découvrir petit à petit tout ce qui se cache ou derrière, ou dessous, ou au-dessus de ces mots bibliques. Alors, passez un bon été, Michel.
Oui, bonjour à tous les auditeurs aussi, que je retrouve avec grand plaisir.
Donc nous repartons toujours, parce qu'il y a tellement de mots dans cette bibliothèque que on n'en finit pas. On commence d'ailleurs, d'après, comme toujours dans nos habitudes, nous avons démarré avec ce chant grégorien qui nous sert un peu de lancement pour notre thématique d'aujourd'hui qui est le sacrifice.
Le sacrifice. Alors, le chant grégorien que nous venons d'entendre dit « Agnus Dei qui tollit peccata mundi miserere nobis » c'est dit deux fois. Et puis à la fin, Agnus Dei qui tollit peccata mundi dona nobis pacem, c'est-à-dire agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, aie pitié de nous, donc deux fois, et ensuite agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, donne-nous la paix. Ce thème de l'agneau de Dieu introduit parfaitement, à mon avis, à une réflexion sur le sacrifice. Il vient de l'évangile de Jean, Jean 1, 29. Le lendemain, il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Notez, Redouane, que si on traduit le « quitolite » latin, qui est l'équivalent, qui traduit le grec « oairon » par « qui porte sur lui », ou bien au contraire si on traduit « qui enlève les péchés du monde », le thème est coloré différemment. Qui porte sur lui renvoie à l'idée du bouc émissaire, et donc le thème est ainsi tragifié. Tragifié, d'accord, au sens grec, hein. Tragos, c'est le bouc, c'est la tragédie, c'est le chant du bouc sacrifié. Ou bien au contraire, qui enlève les péchés du monde, alors on ne voit plus le tragique du bouc émissaire, mais on a une euphémisation. En effet, qui enlève les péchés vit simplement le résultat heureux, et ce résultat heureux, l'exemption des péchés, empêche de voir, à mon avis, le tragique de la victime immolée. Or, en grec et en latin, le mot, respectivement « airein » en grec et « tollere » en latin, autorise les deux traductions. Alors, à quoi peuvent tenir les choses, hein? On a déjà parlé des problèmes de traduction. Les enjeux sont énormes, suivant tel ou tel choix. Hein.
Et puis ensuite, c'est ce qu'induit la théologie de tout un chacun. Et c'est là où il faut être vigilant, effectivement, entre ce que dit le texte et ce que nous essayons d'en dire.
Tout à fait, tout à fait. Alors, étymologiquement, le mot latin « sacrificium » désigne l'ensemble des opérations rituelles par lesquelles un aliment ou un animal sont soustraits à l'usage normal et sont rendus intouchables, changent de nature. Le mot latin « sacer », d'où dérive notre mot « sacré », signifie « séparé », « mis à part ». Et « sacerdos », en latin, veut dire « le prêtre hein ». Eh bien, le prêtre, c'est le sacrificateur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour cela que l'Église catholique ne peut ordonner prêtres les femmes. On n'y pense pas souvent hein, à cet aspect des choses. La messe catholique, en effet, est un sacrifice, et seul un homme peut sacrifier. Traditionnellement, dans les campagnes, c'est l'homme qui tue l'animal et la femme se contente de recueillir le sang. Et en Corse, lorsqu'une femme veut pratiquer la vengeance ou la vendetta, elle se déguise en homme. Alors, le problème, bien sûr, Edouane, vous le confirmerez, ne se pose pas en monde protestant, où le culte n'est pas un sacrifice, et où il peut tout à fait y avoir des femmes pasteurs. Hein, c'est bien
oui, ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans mal, il a fallu attendre un petit peu, mais effectivement, il n'y a pas d'éléments de cette nature qui pourraient faire problème.
Voilà. Alors, donc, les journalistes, par exemple, qui traitent l'Église de machisme, sont assez ignorants à cet égard. Hein. Il faut voir quel est le rôle du prêtre. Hein. Ben, cette misogynie ecclésiale en monde catholique a une justification relativement à ce qu'est la messe. Hein. Un sacrifice, et le prêtre est un sacrificateur. Alors, toutes les civilisations de l'Antiquité ont pratiqué des sacrifices. De tout temps, les hommes ont mis au-dessus d'eux des puissances qui s'appellent les dieux, qu'il s'agissait de se rendre agréable en leur faisant des offrandes sacrificielles. Ainsi, l'homme d'un côté est débiteur ou client des dieux, mais de notre côté, l'homme se rattache les dieux par son obéissance, et il échange la protection des dieux contre ses propres dons. Exactement comme au Moyen-Âge, le serf devait s'accorder au seigneur, mais à charge pour le seigneur de protéger, en échange, pourrait-on dire, le serf qui lui devait cette corvée. Alors, il y a un auteur connu qui s'appelle Marcel Mauss, qui a écrit un essai sur le don en 1924, et Mauss montre que dans tout don socialisé, il y a présupposition implicite d'un échange. C'est la théorie du potlatch. Hein. On donne, mais à charge pour l'autre, en quelque sorte, de renvoyer l'ascenseur à l'occasion. Le don crée et manifeste à la fois le ciment et la solidarité d'une société. Alors, que peut-on donner de mieux que ce qu'on sacrifie, hein. Alors, parfois, on brûlait l'animal entier. C'est de là que vient notre mot « holocauste », qui, en grec, signifie « fait de brûler entièrement »,« holos hein. ». Dans les grandes occasions, on sacrifie à la fois 100 bœufs, hein, d'où notre mot « hécatombe », sacrifice de 100 bœufs, hein, et on réservait pour la divinité une partie du corps de la victime, mais aussi, on ne le dit pas assez, on réservait pour les prêtres hein, une autre partie qui n'était pas la plus méprisable en qualité. On voit déjà que le sacrifice constituait pour le clergé une rente de situation non négligeable. Hein. C'est une circonstance assurément peu glorieuse, mais qui a joué pour expliquer l'attachement au sacrifice en milieu ecclésial. Alors, ce qui est vrai des dieux antiques, il est aussi évidemment du dieu du monothéisme. On verra dans le Lévitique toutes les prescriptions techniques concernant les sacrifices. Alors, ces sacrifices ont pour but essentiellement l'expiation et concernent principalement des animaux. Alors, on dit que le dieu d'Israël des sacrifices humains lors de l'épisode bien connu de l'épreuve ou de la tentation proposée à Abraham. Et au dernier moment, on lit dans l'épisode qu'un bélier fut substitué à Isaac. Alors, moi je veux bien, mais ce qui me gêne, c'est la fin du dernier verset de l'épisode qui me fait toujours frémir. Il est dit à la fin de l'épisode, « Abraham revint au singulier vers ses serviteurs. Ils se levèrent et allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. » C'est Genèse 22, 19. Alors, pourquoi ce singulier, qui est bien singulier, « Abraham revint », où donc est passé Isaac dans l'histoire? Alors, si Abraham est revenu tout seul, n'est-ce pas parce qu'il y a dans le texte, alors je dirais la trace ou la cicatrice d'un ancien état où le sacrifice d'Isaac aurait bel et bien eu lieu. Comme en monde païen du sacrifice d'Iphigénie, nous avons deux versions. Une qui est assurément la plus ancienne ou la plus archaïque, où Iphigénie est effectivement sacrifiée. C'est celle que reprend Lucrèce dans le De Natura Rerum, livre 1 ou chant 1, plutôt vers 80-101. Et l'autre version, plus moderne et plus euphémisante, nous dit que à Iphigénie, finalement, fut substituée, à la faveur d'un nuage recouvrant les assistants, une biche. C'est celle que choisit déjà Euripide et que reprend ensuite Ovide dans ses Métamorphoses, au chant 12, vers 24-38. Alors, on voit que la tragédie du bouc sacrifié ne meurt pas toujours dans le conte euphémisant que l'on a ensuite. Méfions-nous donc des visions iréniques, c'est-à-dire trop pacifiques, des visions pacifiées. Je dis souvent, je m'amuse en disant pacifier.
Mais cependant, disons, dans le texte, on voit à la mort d'Abraham, comment Abraham, pour son héritage, fait partir l'ensemble de sa descendance vers au loin, dans les terres des loins, pour justement qu'Isaac puisse bénéficier de cette bénédiction.
Oui, non, mais là, je ne le nie pas. Mais il me semble qu'il y a une trace ou une cicatrice, quelque part, comme on dit aujourd'hui dans le texte. Alors, les prophètes d'Israël ont-ils critiqué les sacrifices? Mais vraiment, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont critiqué, hein? Est-ce qu'ils ont critiqué le ritualisme, le geste sans pensée ou sans véritable intention, hein? Comme disent beaucoup de commentateurs qui veulent à tout prix sauver le mot et l'idée du sacrifice, ou bien le sacrifice lui-même? Ainsi, si on prend le prophète Osée, Osée 6.6 dans la version de la Septante, « Car je veux la miséricorde, en grec « éléos », et non le sacrifice, en grec « tusia », et la connaissance approfondie de Dieu, alors j'aime bien ce mot, la connaissance approfondie, c'est « épignosis », plus que les holocaustes. Hein. Alors, quoi de mieux, à mon avis, que ces deux mots, « miséricorde » et « connaissance approfondie » ou « surconnaissance », qu'on peut évidemment rapprocher de ma chère gnose. Vous savez que je suis fasciné par cette gnosis, cette connaissance. Alors, Jésus reprend cette phrase, la phrase d'Osée en Matthieu 9, 13. « Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et plus loin, en Matthieu 12, 7, Jésus dit « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Mais je pense que si beaucoup de théologiens chrétiens veulent garder le sacrifice et disent que ces textes ne visent que le ritualisme, hein, c'est tout simplement parce que pour eux, Jésus a en quelque sorte spiritualisé, parachevé et accompli en incarnant par préfiguration un nouvel Isaac. Enfin, on a dit que Isaac préfigurait Jésus, Isaac portant sur le dos le bois de l'Holocauste qui va se produire ensuite. Hein. C'est une préfiguration de Jésus portant sa croix sur le dos. Alors, Isaac, fils bien-aimé d'Abraham, on voit dans la Septante Agapetos en Genèse 22:2. Et on a combiné le scénario donc de la victime sacrificielle avec celui de l'intronisation messianique traditionnelle à l'occasion du baptême de Jésus et ensuite de sa transfiguration dans les évangiles synoptiques. Hein, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Alors ce fils bien-aimé, c'est aussi celui du maître de la vigne dans la fameuse parabole où le maître de la vigne qui envoie son fils et son fils va être massacré par les vignerons homicides ici sont tragiquement la figure symbolique des juifs. Hein. Ils respecteront mon fils, dit le maître de la vigne. Eh bien non, on sacrifie l'héritier. C'est Marc 12, 6 et Luc 20, 13. Et enfin, on nous dit alors dans les textes canoniques que Jésus offre son sang pour la multitude en rémission des péchés. Marc 10, 45, Luc 22, 37. Alors, évidemment, la matrice de ce scénario sacrificiel, toujours construit par voie de figure, c'est Isaïe 53, hein, le passage dit du serviteur souffrant, où on lit « Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché ».
Écoute du réseau FM+, 91 MHz sur Montpellier, 103.1 à Nîmes. Des mots pour le dire, le sacrifice est le mot d'aujourd'hui, où on essaye de comprendre exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Est-ce une répétition des sacrifices humains? Et qu'est-ce que la Bible essaye de nous transmettre? D'abord, la première figure symbolique qui est le non-sacrifice d'Isaac, ou le sacrifice avec une suspicion ou un point d'interrogation que nous pose Michel, et aussi ce parallélisme avec Jésus, le sacrifice de Jésus. Est-ce un sacrifice est-ce expiatoire? Est-ce, voilà, on en est là, avec ce chant d'ailleurs grégorien, qui nous relance dans des questionnements.
Absolument. Alors ce chant s'appelle le « O salutaris hostia ». Eh bien, ça veut dire « O victime qui nous sauve hein. ». « Quae caeli pandis ostium » qui nous ouvre la porte des cieux. Bella premunt hostilia, l'ennemi nous assaille, dar obur fer auxilium, viens au secours et rends-nous forts, unit inoque domino, à toi, Seigneur unique, ô Trinité, c'est le dogme de la Trinité, hein, qui a été introduit plus récemment, bien sûr, que les textes évangéliques. Sit sempiterna gloria, que soit la gloire sempiternelle, qui vitam sine termino, nobis donet in patria, qui nous donne dans la patrie la vie qui ne finira point. Amen. Alors, ce chant fait partie des textes eucharistiques dans l'Église romaine. Alors, n'oubliez pas que le mot « hostia hein, », qui a donné « hostie », veut dire en latin « victime »,« victime ». Et que l'autel, en latin « altare », où se célèbre la messe catholique, c'est l'autel du sacrifice. La première parole dite par le célébrant, c'est « introibo ad altare dei », c'est-à-dire « je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu ». Je vous ai dit déjà l'année dernière que je venais d'un milieu catholique, hein, tout en m'en étant fortement éloigné. C'est pour ça que je fais des références au monde catholique que je connais mieux personnellement que le monde protestant. En tout cas, au monde catholique, il me semble que le célébrant est bien un sacrificateur. On le voit d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux 9:22 dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Alors cette phrase me fait frémir encore, hein. C'est assez terrifiant, hein. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est ce qu'on appelle en théologie alors la doctrine de la substitution vicaire pénale. Vicaire veut dire ici suppléant. Si on regarde le dictionnaire Littré, le mot vicaire, c'est le nom qu'on donnait autrefois aux champions qui, dans le combat singulier, se battaient pour un autre. On donnait aussi ce nom à celui qui subissait pour un autre l'épreuve de l'eau froide, de l'eau bouillante, etc. Et Littré montre, dit bien que c'est un terme de théologie. Hein. Satisfaction vicaire, c'est celle que le Sauveur a offerte à Dieu en notre lieu et place. Hein. C'est exactement ce que dit Littré. Et notez bien que le terme de satisfaction aussi, c'est un terme théologique qui désigne précisément le scénario que je suis en train d'analyser. Donc, cette idée du sacrifice substitutif et satisfaisant, hein, qui sous-tend donc toute la théologie qui s'est élaborée ensuite, après les textes canoniques, peut se trouver dans la formule latine du credo de Nicée. Enfin, on lit en effet « Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato ». C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ce « pro nobis » ? Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, hein. Est-ce que ça veut dire crucifié pour nous en notre faveur, hein, ou bien simplement à notre place, pro nobis, comme dans le français, le mot français quiproquo, hein, qui est un mot calqué à partir du latin, le mot pro signifie simplement à la place de, hein. En notre faveur se dirait en latin propter nos, ce qu'on a dans un autre article du Credo, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit decaelis. C'est-à-dire qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux. Alors dans ce cas-là, avec propter, il n'y a pas d'équivoque. Mais dans le pronobis, ça peut signifier à notre place, hein, à notre place. Et ce choix du pronobis après le crucifixus latin, bon, qui dénonce peut-être un tropisme catholique, je ne sais pas, hein. C'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. Et comment comprendre aussi le fameux « prie pour nous, ora pro nobis » dans la liturgie catholique, hein? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre, dans un milieu qui croit à la vertu médiatrice ou intercédente des saints, « prie à notre place, hein, à notre place ». Je pense que le monde protestant est quelque chose, ignore cette vertu médiatrice des saints. Hein, je pense que donne.
Bah, disons que le saint, c'est tout un chacun. Nous sommes des saints. Mmh. Mais aucun saint ne peut se substituer ou ne peut être l'intermédiaire. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai que la relation protestante est une relation directe.
Direct, oui, oui.
Et il n'y a pas de correspondance.
Il n'y a pas le rapport.
C'est une ligne directe sans correspondance.
Tout à fait. Alors, cette théologie de la substitution se heurte, à mon avis, à d'énormes difficultés logiques. En effet, si le seul sacrifice du Fils a sauvé définitivement toute l'humanité, nous sommes tous déjà sauvés. Et alors, quel besoin avons-nous de nous inquiéter de notre propre salut ? Par certains côtés, cette idée peut être démobilisatrice, hein, et peut nous dispenser d'agir moralement. Mutatis mutandis, c'est-à-dire en changeant ce qui doit être changé, on pense à tout ce qu'on a appelé les pécheurs justifiés, ou les nécessariens, hein, qui s'abritaient derrière la toute-puissance de la grâce pour en tirer motif à agir n'importe comment. Hein. Secondement, quelle image peut-on se faire de la justice d'un Dieu qui fait mourir un innocent à la place d'un coupable, hein? Et cette idée même exclut le pardon, comme l'ont fait remarquer en leur temps, au XVIe siècle, les Sauciniens, les disciples de Saucin, l'oncle et le neveu. Hein. Pardonner, en effet, implique que le créditeur annule la dette, en quelque sorte efface l'ardoise. Or, si Dieu a effectivement été payé par le sacrifice de son Fils, il a recouvré la dette, donc il n'a pas pardonné. Et cela révolte toute raison. Alors, je sais bien, on parle toujours de l'amour, hein, en monde chrétien. Unir amour et sacrifice me semble extrêmement problématique. On va le voir.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent, il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour heureux.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Terrand, Ridoanès Banti, sacrifice, le mot du jour. Alors, Michel, vous nous avez présenté d'abord deux chants grégoriens qui nous introduisaient dans une théologie, mais je sens qu'à travers Brassens, c'est quelque chose de plus personnel que vous allez nous dire.
Oui, bon, je disais...
Il n'y a pas d'amour heureux.
Voilà, qu'est-ce que vous... on unit souvent amour et sacrifice, hein, et Aragon nous dit il n'y a pas d'amour heureux, parce que nous venons d'entendre un texte d'Aragon chanté par Georges Brassens. Eh bien, regardons-y de plus près. Bon, on s'enchante toujours de cette chanson, il n'y a pas d'amour heureux. Par exemple, Daniel Darieux la chante à la fin du film de François Ozon, Huit femmes, et le spectateur est fort ému de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Georges Brassens utilise la même musique que pour les mystères douloureux de Francis Jammes, que je crois nous avons déjà entendu dans une précédente émission, la fameuse prière « Je vous salue Marie ». Mais il est curieux que ce mécréant, qu'était Georges Brassens, ne voit pas le caractère fondamentalement religieux de ce poème d'Aragon. D'ailleurs, il a dû être gêné quelque part, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il ne chante pas la dernière strophe du texte d'Aragon. Le texte d'Aragon s'achève par « Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, et pas plus que de toi l'amour de la patrie ». Et là, notre cher Georges, Georges l'anarchiste, hein, a reculé, il ne chante pas cette strophe. Mais que n'a-t-il réfléchi au reste du poème ? En effet, on ne voit pas assez combien cet athée marxiste qu'était Aragon, hein, avait une structure d'esprit totalement religieuse au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire au sens sacrificiel, hein, sacrificiel du mot. Tout à fait comme Éluard, hein. Et il y a un implacable réquisitoire contre Éluard et Aragon dans le texte de Benjamin Perret qui s'appelle « Le déshonneur des poètes ». C'est un texte qui est paru en 1945. En effet, chez ces deux poètes, Aragon et Éluard, on a la structure de la litanie, on a le thème du dolorisme, on a l'hagiographie, c'est-à-dire la célébration du sacré, et on a un martyrologe, c'est-à-dire un répertoire de tous les martyrs, hein, et on a aussi les martyrs, bien sûr, de la résistance, et on a aussi une vision abstraite des choses. Par exemple, le poème d'Éluard qui s'appelle « Liberté », que l'on vante tout le temps, ne nous dit pas de quelle liberté précisément il s'agit. Je te chante, liberté, mais s'agit-il de la liberté, justement, de l'opprimé face à l'oppresseur, ou bien la liberté réelle du pauvre face au riche, du chômeur face à celui qui a un emploi? Donc, c'est une structure litanique qui nous enchante, bien sûr, nous émeut, hein, mais cette abstraction, hein, peut poser problème. En fait, tout cela s'unit ensemble pour brouiller le regard, là je développe ce que dit Benjamin Perret, hein, pour brouiller le regard et faire oublier les drames et les gaspillages réels derrière des cantiques, même si ces cantiques sont très beaux. Alors, on ne pense pas vraiment, alors, l'émotion tue la réflexion. Voici, par exemple, au hasard, une euphémisation du sacrifice dans La Rose et le Réséda d'Aragon. Il s'agit du sang versé par les résistants fusillés. Il coule, coule et se mêle à la terre Guilhema pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Eh bien, cette structure n'est laïque qu'en apparence. Ou alors, il faut dire qu'il y a une religiosité séculière ou laïcisée qui relaie la première en euphémisant le sang versé. En effet, en monde laïque, eh bien, c'est tout simplement la patrie qui va remplacer Dieu. Autrefois, on disait mourir pour Dieu, hein, dans le cas des martyrs. Eh bien, à l'époque moderne, on a mourir pour la patrie. Hein. Mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Voici, et ça c'est ce que dit Corneille. Et puis, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie. Ces vers sont de Victor Hugo. Eh bien, ces vers de Corneille, dans Horace, je crois, hein, et de Victor Hugo, nous donnent une version laïque du sacrifice religieux. L'école laïque, dont je viens, hein, les a enseignés avec dévotion, sans penser peut-être que l'autre école qu'elle considérait comme son ennemi, c'est-à-dire l'école cléricale, ne professait pas autre chose, même dans un autre contexte.
Mais est-il facile de s'émanciper justement d'une culture judéo-chrétienne millénaire?
Oui.
Sinon, on perd le sens à la fois des valeurs ou des repères.
Absolument, absolument. Mais à mon avis, il faudrait prendre dans cette culture ce qu'elle a de meilleur. Hein. Par exemple, pour moi, s'agissant du christianisme, l'enseignement de choses profondes sur notre vie, la lecture des paraboles. Mais la théologie sacrificielle, ou l'éloge justement de la victime sacrifiée, me semble poser problème. Alors, vous savez que tous nos monuments aux morts sont remplis d'inscriptions qui portent « C'est mort pour la patrie hein ». Et souvent, ces monuments aux morts font place dans nos petits villages, font face dans nos petits villages à l'école communale. Comme si pour aller de l'une à l'autre, de l'école communale au monument aux morts, il suffisait de traverser la rue ou la route. Et sur les pierres tombales de tous ces morts sacrifiés, sur l'autel de la guerre, sur l'autel de Mars comme disait Alain, hein, Mars ou la guerre jugée d'Alain, alors sur les pierres tombales, on lit d'abord le nom, puis le prénom, par exemple Dupont, Pierre ou Durand, François, hein, exactement comme quand l'instituteur nommer ses élèves quand il faisait l'appel. C'est le cas, par exemple, du cimetière de Bolcaire, dans les Pyrénées-Orientales, où j'ai passé mes dernières vacances, région que j'aime beaucoup et dont je viens. Hein, eh bien, on a l'école d'un côté, de l'autre côté de la route, le monument aux morts. Hein. Alors, moi, je pense que à ces morts pour la patrie, on devrait préférer le bien plus lucide victime de la guerre. Victime de la guerre. N'oublions pas que seuls ce sont des vivants qui prononcent des discours aux morts. Hein, et par ces discours, ils se donnent facilement bonne conscience. Ils s'exonèrent de la culpabilité de leur avoir survécu. C'est exactement ce que dit Hector dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Giraudoux, une magnifique pièce parue en 1935. Et la mort a l'énorme inconvénient, comme le dit Hector aussi, hein, d'opérer une absolution générale. Hein, et elle permet, la mort, d'égaliser dans le mérite tous les humains, aussi bien les crapules que les honnêtes. Comme le dit le poète Brassens dans une chanson que nous entendrons à la fin de l'émission, « On pardonne toujours à ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous de braves types ».
Alors, on reviendrait à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que souvent aussi on dit mort pour la France, pro nobis.
Voilà, le pro nobis, c'est pareil.
Hein. C'est vraiment le sacrifice.
Voilà. Donc, je suis fondé à dire qu'il y a une religiosité laïque qui valorise le sacrifice. Alors là, je vais vous lire un extrait magnifique du discours aux morts de la guerre prononcé par Hector dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». C'est un extrait de l'acte 2, scène 5. Alors, ce texte n'est pas dans les anthologies ou manuels scolaires. Et on comprend bien pourquoi. En effet, il y aurait possibilité de plaintes de parents d'élèves qui seraient patriotes, ou bien possibilité de procès intentés par les associations d'anciens combattants, etc. Voici ce que dit Hector. « Ô vous qui ne nous entendez pas, qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est bien égal, n'est-ce pas? Vous aussi, vous l'êtes. Mais nous, nous sommes les vainqueurs vivants. C'est ici que commence la différence. C'est ici que j'ai honte. Je ne sais si dans la foule des morts on distingue les morts vainqueurs par une cocarde. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la vraie cocarde, la double cocarde, ce sont leurs yeux. Nous, nous avons deux yeux, mes pauvres amis. Nous voyons le soleil. Nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil. Nous mangeons, nous buvons, et dans le clair de lune, nous couchons avec vos femmes, avec les vôtres aussi. Alors Démocos, qui est la aide patriote, dit « Hector, tu insultes les morts maintenant. Hector, vraiment, tu crois ? Démocos, ou les morts ou les vivants ? Hector, il y a une distinction. Priam, achève Hector, les Grecs débarquent. Hector, alors écoutez bien ce passage, j'achève. Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes, puisqu'enfin c'est un général sincère qui vous parle, apprenez que je n'ai pas une tendresse égale, un respect égal pour vous tous. Tout mort que vous êtes, il y a chez vous la même proportion de braves et de peureux que chez nous qui avons survécu. Et vous ne me ferez pas confondre, à la faveur d'une cérémonie, les morts que j'admire avec les morts que je n'admire pas. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains, et que je n'admets pas plus la mort comme châtiment ou comme expiation aux lâches que comme récompense aux vivants. Aussi, qui que vous soyez, vous absents, vous inexistants, vous oubliés, vous sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en effet qu'il faille, en fermant ses portes, il s'agit des portes de la ville de Troyes, hein, excuser près de vous ces déserteurs que sont les survivants, vous voyez, ces déserteurs que sont les survivants, et ressentir comme un privilège et un vol ces deux biens qui s'appellent, de deux noms dont j'espère que la résonance ne vous atteint jamais, la chaleur et le ciel. Vous voyez, alors, ce texte, je le répète, va scandaliser les associations d'anciens combattants, tous ceux qui sont habitués au patriotisme, hein, mais je trouve qu'il a une très grande justesse. Et je pense souvent, puisque j'ai cité des paroles de...
Mais on pourrait y retrouver, il oui. y a 2-3 ans, un petit peu plus, les fameuses lettres des soldats des tranchées.
Absolument.
On peut retrouver un petit peu cette intonation, cette révolte.
Absolument.
C'est assez étonnant.
Ah oui. Alors, mort pour la patrie, non, mourir par exemple pour enrichir les marchands de canons, par exemple. Hein. Mais je crois qu'un un petit village français avait voulu mettre ça sur inscription, comme inscription sur un monument mort, et cela fait une levée de boucliers. Hein. Je pense que victime de la guerre est mieux, est plus neutre. Hein. Mais ce mort pour la patrie euphémise facilement le sacrifice. Alors comme j'ai cité des vers de Corneille et de Victor Hugo, qui sont très beaux, hein, je pense souvent à une hypothèse paradoxale sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir encore, mais qui me semble de plus en plus plausible, qu'il peut y avoir une obscénité de l'art. Et cette obscénité est d'autant plus dangereuse que l'art est plus beau. Ainsi, il y a un magnifique vers de Peggy dans Ève, Ève 1913, paru en 1913, « Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ». Alors, c'est une métaphore très réussie, hein, et une transposition poétique admirable. Mais est-ce que le contenu est admissible, hein? Il s'agit de des conscrits, hein, qui ont payé de leur sang les premiers jours de la guerre. Alors, ce poème de Peggy, Ève, finalement, est toujours lu avec émotion. On conseille aux professeurs, et je pense au manuel de la garde des Michards du XXe siècle, de lire ce poème aux élèves avec émotion et recueillement, surtout en pensant au sacrifice de l'auteur lui-même. Vous savez que Charles Péguy est mort au front dès les premiers jours de la guerre de 1914-1918. Lagardy-Michard ne signale pas du tout dans son anthologie le texte de Giraudoux que je vous ai lu, et on comprend pourquoi. Par contre, il nous dit « Les professeurs liront ce texte avec émotion ». Est-ce qu'on peut euphémiser ainsi et pourquoi pas vanter à la fin ce qui révolte à la fois la sensibilité et la raison ? Un beau vers, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés, excuse-t-il tout ? Est-ce qu'on peut transformer le chant d'horreur en chant d'honneur ? Vous voyez, hein, c'est cette notion d'honneur patriotique. Et s'agissant de Corneille, qui osera prendre l'honneur cornélien, qu'il s'agisse de celui vanté dans le Cid ou dans Horace, pour ce qu'il est, c'est-à-dire de l'infantilisme machiste, hein ? Les vers de Corneille sont certes beaux, mais le fond est barbare. Il renvoie à ce qu'il y a en l'homme de plus élémentaire et de plus brutal, l'action réflexe. Du type « tu me frappes, alors je te frappe ». C'est le sujet du Cid, hein, le Cid de Corneille. Alors on dit « le Cid ne passe pas chez les élèves ». Pas du tout. S'il n'y avait pas la langue, la rhétorique de l'époque, évidemment, qui risque de ne pas passer, eh bien, l'idée essentielle du Cid, « il m'a manqué, il m'a mal regardé », etc., elle passe très bien chez les jeunes, surtout les jeunes des banlieues aujourd'hui. Hein. Il ne m'a pas respecté. Eh bien, cet honneur cornélien, il est exécuté de façon impitoyable par Schopenhauer, sous le titre de l'honneur chevaleresque, dans un livre qui est malheureusement difficile à trouver, qui s'appelle « Aphorismes sur la sagesse dans la vie ». Il y a eu une traduction française en 1880, on peut le trouver en bibliothèque, et le sous-titre c'est « De ce que l'on représente hein, ». Les plus beaux vers n'y feront rien. En fait, on ne s'honore, je pense que vous en serez d'accord, Edouane, que de ce qu'on fait. Et on n'est pas déshonoré de ce qu'on nous fait. Quelqu'un nous a mal regardé ou nous a donné un soufflet. C'est lui qui a été déshonoré par ce qu'il a fait, et pas nous, hein. Prenez l'exemple d'une femme violée. Une femme violée est victime d'un crime. Elle n'est pas déshonorée. Or, il y a des cultures, et on peut se demander si ce sont vraiment des cultures, où elle est mise à mort au nom même de cet honneur, ce qu'on appelle des crimes d'honneur, vous voyez. Et même Marcel Pagnol tombe dans ce sophisme lorsqu'il nous dit, à propos des femmes, « L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois ». La littérature ferait bien parfois de mieux réfléchir. Il est vrai qu'on peut dire que Pagnol met ses paroles dans la bouche de César, je crois, et donc ne les prend pas à son compte. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Redouane. Oui, oui, une femme victime d'un viol n'est pas déshonorée, oui, oui. Pas du tout. C'est celui qui a fait le viol qui s'est déshonoré. Vous voyez, hein, c'est assez préoccupant. Et ça existe encore, les crimes d'honneur. J'en ai entendu parler en Turquie, par exemple, dans le monde musulman.
Pendant très longtemps, le crime d'honneur était aussi reconnu, même par la justice en Italie, jusqu'à il y a une vingtaine d'années.
Oh là là, alors là, c'est encore plus abyssal, encore plus terrifiant, hein. Vous voyez, donc, alors, on a fait toute une littérature sur l'honneur, hein, la littérature cornélienne.
Mais c'est que l'honneur est lavé par le sacrifice.
Voilà, toujours. Voilà, toujours par cette idée de sacrifice que je mets en question fondamentalement. Quand Giraudoux nous dit dans La guerre de Troie n'aura pas lieu que la poésie et la guerre sont les deux sœurs, c'est le personnage de Démocos, Laède, armons-nous et partez, hein, voilà, armons-nous et partez, hein, eh bien, Giraudoux a raison, hein. Alors, je sais bien que le sacrifice a encore de beaux jours devant lui. Hein. Je pense que critiquer toutes ces religions de relais qui font l'éloge du sacrifice, comme le nationalisme ou le patriotisme, semblera à beaucoup encore un blasphème. Peut-être que nous aurons des auditeurs qui vont téléphoner pour dire leur indignation. Hein, peut-être. Hein. Peut-être aussi on a toujours besoin de la consolation que procurent ces religions de relais, cette euphémisation du sacrifice. Nous entendrons à la fin une très belle chanson de Georges Brassens, qui là a été beaucoup mieux inspiré que par le fait de reprendre « Il n'y a pas d'amour heureux d'Aragon ». Cette chanson s'appelle « Le temps passé ». Et Brassens nous dit « Il est toujours joli le temps passé, sitôt qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne toujours à ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous de braves types. Par exemple, on va enterrer une canaille, eh bien, il n'est plus une canaille. Hein. On met ses beaux habits, comme il le dit dans la dernière strophe, et on va faire ses dévotions devant sa tombe. Donc, cette euphémisation générale du sordide, du négatif, voire de l'inadmissible, est questionnée par Brassens, à mon avis, avec raison. Mais cette tendance est fortement ancrée dans l'homme, hein, comme dit Nietzsche, « humain trop humain ».
Merci Michel, merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Et puis, si on a manqué de ce qui est important, c'est la sagesse, eh bien justement, voilà, ça sagesse sera le mot de jeudi prochain. Merci Michel, merci à vous. Merci. Et puis, ne quittez pas les ondes, puisque pour les auditeurs de Montpellier, nous vous proposons dans la suite du jazz. Là aussi, c'est d'autres univers à découvrir. Et puis, le magazine culturel Didgeridoo pour les auditeurs du secteur nîmois.
Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.
Dans les comptes d'apothicaire, 20 ans c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sont morts à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connais un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Dans ta petite mémoire de lièvre, Bécassine, il t'est souvenu de notre amour du coin des lèvres. Amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte. Il est mort, il est embelli. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des bras. J'ai mis ma tenue la plus sombre et mon masque d'enterrement pour conduire au royaume des ombres un paquet de vieux ossements. La terre n'a jamais produit, certes, de canailles plus consommées. Cependant, nous pleurons sa perte. Elle est morte, elle est embaumée. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types.